Bonjour, Raymond Richard au micro pour l'émission Témoin. Guy est à la technique, vous êtes sur Radio Grand Ciel, bien sûr. Alors, aujourd'hui, pour cette émission Témoin, je reçois les sœurs de la communauté Saint-Jean qui se sont installées à Dreux. Alors, il y a autour du micro sœur Domitille de Jésus, sœur Marie-Jean et sœur Anne-Laetitia. Ce sont trois nouvelles drouaises que l'on est bien heureux d'accueillir à Radio Grand Ciel pour qu'elles nous expliquent, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette communauté Saint-Jean ?
Alors,
je me tourne vers sœur Domitille qui est la responsable, sœur Domitille de Jésus.
Nous faisons partie d'une famille religieuse composée de frères, de sœurs contemplatives et nous sommes la branche des sœurs apostoliques. Et la communauté est née en 75, les frères sont nés en 75 et nous à leur suite, notre date de naissance c'est un petit peu plus tard, c'est en 84.
Voilà. D'accord, donc finalement quelque chose de récent. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que finalement, beaucoup d'ordres religieux implantés en France voient leurs effectifs fondre, qu'elles soient contemplatives ou qu'elles soient actives. Et vous, inversement, vous recrutez.
Oui, moi j'en sais rien, c'est le mystère de mon Dieu. Hein. Des communautés naissent pour répondre à un besoin de l'Église, un besoin du moment. Donc on est dans cet élan-là, si on peut dire, et le Seigneur, c'est vrai, nous envoie des vocations aujourd'hui pour répondre à un besoin précis de l'Église, que lui connaît mieux que nous, sans doute. On est très international, hein. On accueille beaucoup de sœurs de différents pays. Il n'y a pas que des sœurs françaises. D'ailleurs, ici à Dreux, nous avons aussi une sœur mexicaine, qui n'est pas autour de cette table aujourd'hui, mais qui est bien là à Dreux. Et dans notre noviciat à Saumur, nous avons des sœurs de beaucoup d'origines différentes.
Donc voilà. Pour vous aussi, il y a un recrutement aussi qui se fait sur le plan international.
Tout à fait, voilà. Et nous avons des maisons un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, au Mexique, en Lituanie, en Afrique, dans différents pays d'Afrique, aux Philippines, voilà, et beaucoup d'autres endroits encore.
D'accord. Alors, sœur apostolique, expliquez-moi un peu, parce que apostolique, c'est assez vague.
Apostolique, en fait,
sœur Marie-Jean.
C'est peut-être pour marquer la différence avec les sœurs contemplatives, parce que sinon, on pourrait tout simplement s'appeler les sœurs de Saint-Jean, je pense. On a une dimension apostolique, quoi qu'on ait une grosse dimension de prière, en fait, dans notre vie. Donc, en fait, on pourrait... Le mot qu'on emploie très souvent actuellement, je vais l'employer, c'est le mot « mixte ». Mais c'est pas un mixte, en fait. C'est une vie, mais avec une forte dimension de prière, mais après, au lieu d'être cloîtré, ou au lieu d'être dans les artisanats à l'intérieur, on répond aux appels d'évêques. Et en fait, les prieurés, ils s'installent quelque part parce que c'est l'évêque qui a appelé la communauté. Donc on a une spiritualité propre, mais en même temps qu'on a donc une spiritualité familiale, de famille, on répond aux appels d'évêques et donc on est bonne à tout.
Alors par exemple, vous pouvez aussi bien enseigner, soigner, non ?
Si, il pourrait y avoir ça, mais c'est pas dans l'ordre du métier, justement. C'est pas un métier avec une profession qu'on va exercer. C'est beaucoup plus le débordement c'est une vie, c'est une vie quoi. C'est pas, on voit pas ça du point de vue des activités.
Oui, voilà. C'est ça. C'est pas simplement d'être attaché à une paroisse et à faire le secrétariat ou telle ou telle chose,
oui.
Mais c'est plutôt être là où vous êtes, une présence et un comme témoin du Christ. Est-ce que
oui,
ça va en disant ça ?
C'est, je dirais en premier lieu ça en fait. C'est être témoin du Christ et apporter l'amour du Christ partout où on le peut, témoigner de la lumière de Jésus et de l'amour de Jésus à travers mille manières de vivre et auprès de nos frères. Et alors, si bien que quand un évêque appelle, on va quand même regarder si l'appel correspond, enfin, peut coïncider avec...
Avec le charisme
ce qui est foncier,
de votre
voilà, dans notre vie et le charisme de l'ordre. Donc après, comme prieuré, il y a ici, on va aider les prêtres à la paroisse. On est sur la paroisse, donc on peut faire des activités variées propres à la paroisse et en même temps faire aussi des choses qui sont propres à nous. On peut aussi proposer des choses nous-mêmes là où on est, quoi. Il y a un peu les deux en même temps.
Oui, à la fois vous répondez à un besoin, on vous
voilà,
appelle en vous disant
on va aller chez les
aimerait
autres
que vous soyez
on va rendre service.
Présente, ouais. Et que vous rendiez service.
Oui.
Et en même temps, vous
on peut aussi
dire,
avoir des idées et proposer des choses là où on est. Ça, on dira que c'est joannique, en quelque sorte.
Et alors, par exemple, puisque vous évoquiez votre situation, vous disiez au Puy ou à Versailles. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Puy? Qu'est-ce qu'on fait à Versailles? Ou qu'est-ce qu'on fait à Semur-en-Brionnais?
Alors, au Puy, je ne peux pas vous répondre, je n'y ai pas été. Mais en revanche, Versailles, notre petit couvent est au sein d'une maison de retraite de personnes âgées. Une grosse maison de retraite qui a été ouverte par une autre communauté, les sœurs Augustines, qui, vieillissant et n'ayant pas eu de relève, ont proposé à l'évêque qu'une autre communauté vienne pour assurer la présence spirituelle au sein de cette maison de retraite, qui est maintenant tenue par des laïcs, mais il y a toujours cette présence religieuse. Donc c'est l'accompagnement spirituel des personnes en fin de vie, être auprès des personnes âgées. Essentiellement, il y avait aussi une mission paroissiale aussi, aumônerie de jeunes. Il y a plusieurs petites choses, mais la mission principale, c'est au sein de la maison de retraite. Et la chapelle du couvent, c'est la chapelle de la maison de retraite. Et les personnes âgées viennent prier pour celles qui peuvent. Un des rôles des sœurs, c'est la messe du dimanche qui est anticipée pour la maison de retraite et les sœurs vont chercher avec le personnel les personnes en fauteuil roulant pour leur permettre d'assister à la messe. Là, il y a une dimension religieuse de
donc
cette maison de retraite.
Donc c'est vraiment une grande proximité avec les personnes qui sont les plus faibles là,
oui.
Au moment de la vieillesse. D'accord, donc là un accompagnement. Et au Puy alors? Qu'est-ce qui était au Puy?
Alors on était toutes les deux au Puy. Vas-y.
Alors au Puy, notre mission principale, en fait on est beaucoup à la cathédrale, auprès des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Ce que j'allais dire, c'est le lieu d'envoi des...
Exactement, oui, oui. On est à la sacristie, etc. Mais aussi on accueille ces pèlerins et puis on est là pour la messe d'envoi des pèlerins. Tous les matins à 7h, il y a une messe pour eux. Et on est là pour la bénédiction des pèlerins qui partent vers Saint-Jacques.
Est-ce que ça a renouvelé cette dimension de pèlerinage? Parce que finalement, c'est quelque chose qui avait beaucoup baissé. Et puis, j'ai l'impression que le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est devenu, entre guillemets, à la mode.
Oui, tout à fait.
Et à la mode, à la fois, le fond des personnes qui sont complètement en dehors de ça, c'est l'aspect sportif ou l'aspect, s'isoler. Je pense que de temps en temps, on a besoin de ça. Et puis, en même temps... On ne peut pas faire ce genre de choses sans être bougé par...
Oui, tout à fait. Mais des personnes qu'on a rencontrées, moi j'ai des très bons souvenirs, hein, de personnes qui n'étaient pas du tout cathos, qui ne faisaient pas du tout ça comme une démarche spirituelle de prière ou de... Mais je me souviens du témoignage d'une dame qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée. Elle est venue me voir. Elle est venue à la messe parce qu'elle croyait que c'était obligatoire pour avoir le tampon sur sa créancière. Mais elle est venue me voir en me disant, moi je fais ce pèlerinage parce que au moins, pendant un temps de ma vie, je sais d'où je pars et je sais où je vais. J'ai au moins, pour un temps de ma vie, un sens. Il y a un sens. Voilà. Je vais marcher vers un lieu. Je sais où je vais. Ça m'avait beaucoup frappé, ça.
Donc, ça veut dire qu'en fait, le christianisme, quelque part, on lui demande de donner du sens.
En tout cas, elle avait cette soif de donner un sens à sa vie. Et elle pensait qu'en faisant ce pèlerinage, qu'elle appelait pas forcément ça un pèlerinage, mais elle savait que, pendant un temps, effectivement, il allait avoir un sens à sa vie. Alors, c'était pas forcément lié directement au Christ, mais le Seigneur travaille les cœurs. Après, nous, on voyait pas l'arrivée à Saint-Jacques. Donc, on sait pas.
Et pour vous, qui avez plus de recul?
Moi, j'ai donc habité le Puy plusieurs années et mon rêve, en faisant jour après jour partir les pèlerins sans partir moi-même, était de partir moi-même. J'ai pu le faire et j'ai terminé cet été. Alors, oui. Trois fois en prenant le Camino del Norte et Camino Primitivo, c'est-à-dire on passe par le nord de l'Espagne, la côte, et puis on bifurque sur le chemin primitif qui est plus ancien que le chemin du Puy, qui n'est pas le chemin français, et qui date du 9e siècle. C'est le tout début, quand à l'époque on a découvert le tombeau. Et donc je suis partie avec une sœur en mendiant pour vraiment vivre la situation du pèlerin. Et pour moi, c'est inoubliable. Hein. Et de fait, on rencontre des gens de toutes sortes, quoi. Ceux qui partent en ayant vraiment la foi, j'en ai pas vu beaucoup, bien sûr qu'il y en a. Mais c'est des gens qui aiment l'humanité, qui aiment l'homme. Et il y a tout de suite une solidarité qui est créée d'emblée entre les marcheurs. Et beaucoup reviennent, le refont à cause de ça.
Ils reviennent, ils le refont.
Ils le refont, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup le refont. Beaucoup. J'en ai pas vu un seul déçu. C'est étonnant. Ouais.
Et Vous le faisiez aussi avec le costume de religieuse.
Oui.
Est-ce que c'est un passeport, le fait d'être en costume?
Je pense que ça a aidé pour susciter la confiance. Parce qu'après, il peut y avoir aussi des gens qui zonent. Je ne sais pas, le fait qu'il y en ait tellement maintenant, c'est un mouvement monstrueux, quoi. Il y a un monde fou et de plus en plus chaque année, donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce phénomène. Il y a pour moi un phénomène de société. Les relations sont faciles, mais en même temps, peut-être qu'il y a aussi du business qui se crée à cause de la foule, au niveau des gîtes, au niveau des commerces. Et du coup, il y en a qui disent « ça fait plaisir d'en voir des vrais ».
Ah oui, bon. À ce point.
C'est très mélangé, mais cependant, c'est très, très fraternel. Et c'est extraordinaire. Hein. Et moi, j'ai énormément aimé l'aspect de la différence, de voir des gens complètement variés et à quel point on arrivait à se rencontrer avec simplicité. Il n'y a pas d'étiquette.
Donc, il y a, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le tampon du crédencial, c'est ça? Alors quand même, ça donne une certaine garantie, non?
C'est pas
n'importe qui.
Oui, c'est vrai, mais il y en a, je ne sais pas, ils vont peut-être être trop bizarres, je ne sais pas. Et ils suscitent certains la méfiance, peut-être pour les commerces, ouais, ou
d'accord,
les gîtes. Mais ouais, moi, ce qui m'a, je vous le redis, quoi, ce qui m'a bouleversée, c'est plutôt... moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont dans les commerces, mais je vous dis plutôt ce que j'ai entendu.
Oui.
Mais moi, j'ai plutôt trouvé, comment dire, une fraternité a priori.
Ouais. D'accord.
Et je suis étonnée par ce mouvement, parce qu'on est dans un monde qui se laïcise, et c'est comme s'il y avait une réaction inverse. Que des gens, ils ont soif d'une tradition, ils sont heureux de marcher sur un sentier séculaire, et puis de voir des vestiges, et d'aller rencontrer des gens dans la simplicité, en se dépouillant.
Puis c'est peut-être aussi en réaction avec le fait que, bon, bah ici, on prend le train le matin à 7h et on rentre le soir à point d'heure. Et,
c'est un besoin, oui. Il y a un peu
y a un moment où il faut
une réaction
arrêter,
vitale.
Quoi.
Ouais, une réaction vitale.
Donc vous dites. Mais alors pour vous-même, religieuse, vous dites ça, ça m'a apporté et c'est quelque chose qui était une expérience très forte.
Oui, parce que ce qu'on a voulu faire, c'est... Bon, notre ordre, la communauté Saint-Jean, a une dimension de mendicité. C'est-à-dire que du fait qu'on est religieuse, on
vivre pauvrement.
On prononce nos trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Et en rapport à la pauvreté, c'est vouloir tout recevoir de Dieu. Alors, il y a une pauvreté très matérielle, mais il y a aussi un aspect spirituel à la pauvreté. C'est pas accaparer ses activités. Il y a plein de types d'accaparement qui se vivent dans l'esprit de pauvreté. Et nous, on essaye de, au maximum d'avoir cet esprit. Et là, en acceptant d'être pèlerin, c'est le vivre matériellement, mais vraiment au maximum, sans un rond. Et puis, on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas ce qu'on va manger.
Mais vous avez pu toujours manger et dormir.
Oui.
Pas dormir dans le fossé
une
du coin.
Une fois, on s'est fait jeter d'un gîte qui voulait absolument, absolument qu'on paye. Et puis, bon, on n'avait pas suffisamment d'argent. Et donc,
vous êtes fait jeter quand même, hein, franchement.
Oui. Des gens nous ont payé le gîte, en fait.
Ouais. Ah bon, donc finalement...
Il y a eu la compensation par la générosité.
Donc c'était même pas les tables de Jésus-Christ à Noël.
Oui, non, même pas. C'était mieux.
Et bien, nous allons terminer notre émission. Merci beaucoup. Et j'espère que nos auditeurs ont été intéressés. Et je dis à tous, bonne semaine. Au revoir.